Bonjour tout le monde et merci d'être là pour le démarrage de cette deuxième journée de l'économie. Je me présente, je m'appelle Philippe Lefébure, je suis journaliste à France Inter, je suis chef du service économique et social de France Inter, une petite équipe de 5 personnes qui assurent la couverture de l'actualité économique et sociale pour les journaux donc, de la chaîne, de service public du groupe Radio France et puis aussi une chronique quotidienne que j'assure à 7h48 tous les matins et puis une chronique hebdomadaire le vendredi à 6h55 si je ne me trompe pas, présentée par Alexandra Metzali. On est ravis d'être partenaire des journées de l'économie. Je remercie Pascal Lemaire d'avoir pensé à France Inter et à moi pour être présent ici avec vous. La démarche des journées s'inscrit complètement dans la nôtre, c'est-à-dire qu'effectivement on essaie de mettre l'économie à la portée de tous et on essaye aussi de parler d'abord aux citoyens, on est tous un acteur économique, un consommateur, un salarié, un producteur, un patron, mais on est aussi d'abord un citoyen. Je crois que ça va être le cœur du thème de cette table ronde de ce matin. Faut-il chercher à déréglementer la profession de taxi? Je crois qu'on va confronter, on va voir assez rapidement dans le débat, la théorie à la pratique. Alors je vous présente ceux qui vont débattre. Alors, je vais commencer par Alain Tranoa, puisque c'est lui qui a monté ce plateau. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, l'école de haute études en sciences sociales, directeur aussi de l'Institut d'économie publique. On commencera avec vous pour essayer de planter le décor, on va dire, de présenter le contexte. À vos côtés, le préfet Pierre Chassigneux, vous présidez aujourd'hui la société d'autoroutes SANEF, les autoroutes Nord-Est et Normandie, c'est ça. Et vous avez été chargé d'une mission il y a quelques mois concernant la profession de taxi. Je continue dans l'ordre. Alain Stival, vous êtes président de la Fédération nationale des artisans taxi depuis 9 ans, vous m'avez dit. Il y a plus de 33 500 entreprises de taxi en France. Vous représentez la moitié de la profession. Vous avez été taxi pendant 20 ans. Et puis, à vos côtés, l'économiste Jacques Delplat, économiste dont vous avez été membre de la commission Attali. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Pays pour réformer. Une large part de ce livre est consacrée. Un gros chapitre est consacré à la profession de taxi. La commission Attali avait fait des propositions qui avaient secoué la profession de taxi, on va dire comme ça, formule journalistique pour démarrer. Je vous propose, on va faire 10 minutes chacun avec Alain Tranoa pour commencer, ensuite chacun prendra la parole, s'exprimera. Alain Tranoa reprendra également la parole pour expliquer un peu la proposition qu'il fait. Alain Stéphanie répondra, le débat démarrera, il attendra aussi une question, et bien sûr vous aurez un moment pour poser vos questions et répondre. Alain Tranoa, je vous prie.
Bien, donc j'ai préparé quelques transparents, simplement pour. J'ai fait préparer donc, un professeur de finance de l'université de la Méditerranée qui s'appelle Philippe Bertrand. Et on va voir qu'il y a un petit peu un lien entre la présentation que je vais faire et le thème général de ma conférence qui est la finance. Le titre c'est Dérèglementer l'histoire du taxi et jusqu'où faudrait-il aller. Donc, mon première intervention, c'est d'essayer de circonscrire le problème. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que c'est une profession extrêmement réglementée, profession qui déroge très largement au droit de la concurrence. Nous avons en même temps une réglementation des prix, les prix sont fixés par l'État, et en même temps, vous avez une régulation sur l'entrée. Vous n'avez pas de liberté d'entrée dans la profession de taxi, vous avez un numerus clausus qui est géré par les maires. Général ou par un inspecteur de police dans le cas de Paris. Et puis, il faut se rendre compte que les questions de réglementation se posent dans le monde entier. Vous avez une réglementation à New York, une réglementation à Londres, etc. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a que la France qui réglemente les taxis. Tous les pays du monde réglementent plus ou moins les taxis. Donc ce n'est pas du tout un problème franco-français. Et je crois que c'est un petit peu un cas d'école sur le problème de quel est le degré d'intervention d'État dans un marché. En ce qui concerne la réglementation des prix, vous avez un argument classique pour dire que, pour plaider en faveur d'une réglementation des prix, parce que dans un certain nombre de cas de figure, le client ne peut pas mettre en concurrence ses taxis en raison du lieu et de l'heure. Si vous cherchez un taxi, pas à 2h du matin quelque part, vous risquez d'avoir en face de vous au mieux un taxi, et donc le taxi se trouve dans une situation de monopole local, et donc la fixation du prix par l'État est un moyen de contrôler ce pouvoir de monopole local. Donc on va plutôt s'intéresser ici à la réglementation des licences. Alors pourquoi est-ce qu'il faut réglementer l'entrée? Et bien là il y a un argument pour le contrôle en tout cas de la qualité de ceux qui exercent cette profession, qui est un argument disons de type aléatoire, et en particulier si les taxis étaient en surnom, eh bien on peut penser que l'aléa aura peut augmenter, c'est le cas d'un pour les médecins, c'est pas très bon d'avoir à faire à un médecin qui a très peu de clients, et ça peut être le même cas pour un taxi qui recherche désespérément les clients, ça peut poser quelques problèmes d'aléa pour l'aléa. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, si on réfléchit à quelle serait la bonne façon de réguler l'entrée, ça serait réguler l'entrée jusqu'à ce que la rémunération pour ce type d'activité soit dans l'ordre des choses, c'est-à-dire que la rémunération du travail et du capital dans ce secteur soit comparable à celle d'autres secteurs d'activité. Donc, si vous voulez, c'est un peu un raisonnement de type arbitrage, on ne va pas gagner plus dans ce secteur ou gagner moins dans ce secteur que dans l'autre. Comment sont révélées ces rémunérations implicites du travail et du capital? Eh bien, elles sont révélées par le prix de la licence. La licence est cédée à titre gratuit par les mairies de la préfecture de police, et au bout d'une quinzaine d'années, au bout de 15 ans en France, elle peut être cédée contre une certaine somme d'argent. Donc, cette licence a un prix. Et donc, la licence, ça peut être vu comme un droit d'entrée perpétuel, puisque vous pouvez la revendre, qui permet une activité qui génère un certain revenu. Que l'on définira comme une rente, puisqu'ici on crée une certaine rareté. Hein, la rente, c'est vraiment le prix de la rareté, comme la rente foncière, mais là c'est une rente, dirons, liée à un problème réglementaire. Et la valeur de ce droit d'entrée pour les économistes et les financiers, eh bien, si il y a une certaine rationalité économique dans le secteur, ça doit être égal à la somme des rentes qui sont actualisés, parce que gagner aujourd'hui de l'argent, ce n'est pas la même chose que gagner cette même somme dans 30 ans, donc il faut actualiser les rentes, et c'est normal d'avoir un horizon qui soit un horizon perpétuel, dans la mesure où on peut revendre cette licence. Alors qu'est-ce que c'est que la rente? Eh bien ici, la rente, c'est ce qui reste à l'artisan taxi, lorsque tout a été payé, y compris, et là c'est un raisonnement important, un point de raisonnement, y compris la rémunération du travail du chauffeur de taxi. Et cette rémunération est comptabilisée comme un coût d'opportunité, parce qu'en effet, le chauffeur de taxi, s'il n'était pas en train de conduire la voiture, il pourrait faire autre chose de ses heures de travail. Donc il y a bien un coût d'opportunité. Alors, est-ce qu'on peut vérifier la véracité de ce raisonnement comme quoi le prix de la licence, c'est l'actualisation, la valeur actualisée des bénéfices? Ici, vous avez l'évolution du prix de la licence. Donc c'est en bleu, donc ici vous avez passant 2002 pour Paris depuis 5 ans, donc vous voyez l'évolution en bleu du prix de la licence, et en rouge l'évolution du bénéfice. Donc vous voyez que vous avez un parallélisme certain, et donc ça valide, je l'ai rencontré à la motivation, le raisonnement qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a bien une sorte de rationalité économique, la croissance du prix des plates, la croissance du prix des licences dans les 5 dernières années, reflète le fait que l'activité de taxi est devenue de plus en plus rentable. Alors aussi, quelques éléments chiffrés qui peuvent intéresser l'ensemble de l'audience. Ici, cette rente économique, hein, c'est donc ce qui reste au taxi lorsqu'il a rémunéré l'ensemble, lorsqu'il a payé tous les coûts intermédiaires, lorsqu'il s'est rémunéré en tant que travailleur. Lorsqu'il est jeune, c'est à peu près 30 000 euros. Et lorsqu'il est âgé, à la fin de sa vie active, c'est à peu près 8000 euros. Pourquoi il existe cette décroissance? Tout simplement parce que les taxis jeunes travaillent beaucoup. En général, on considère qu'ils travaillent au moins une fois et demie la durée hebdomadaire du travail. Puis ensuite, ça décroît progressivement et ça reflète cette baisse de la rentabilité nette, ça reflète largement le fait que eh bien, on travaille de moins en moins. Par contre, le coût d'opportunité du travail augmente parce que généralement, votre salaire progresse avec l'ancienneté. Donc, ce qu'on regarde un peu, quelle est la rentabilité de l'activité taxi. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé du fait que la valeur d'une licence, c'est les bénéfices actualisés à quel taux. Eh bien, c'est intéressant de regarder les taux de rendement des capitaux propres que l'on engage dans l'activité de taxi. Donc, ici, je prends la première hypothèse sur l'absence d'endettement, qui était cette rentabilité. Donc, je rapporte la rente aux capitaux investis. Et sur les capitaux investis, eh bien, c'est la rente et l'achat d'une voiture. Donc, ça fait à peu près un capital de 200 000 euros à part. Donc, on regarde la rentabilité annuelle, donc en fonction de l'âge, et bien on voit qu'on part d'une rentabilité de 17% pour arriver sur une rentabilité de 4%. Et si on prend la rentabilité moyenne sur la durée, donc si par exemple si on s'arrête ici à 50 ans, et bien on va avoir une rentabilité moyenne de 11%. Donc, vous voyez que c'est une rentabilité relativement élevée, et qui est en tout cas plus élevée que le taux d'intérêt auquel peuvent emprunter les taxis pour payer leur licence. Et puis ils ont soit le choix, soit ils payent cash leur licence, soit ils empruntent, je dirais, toute une partie de leur licence. Alors il faut savoir que les banques généralement prêtent pratiquement au même taux que pour les prêts immobiliers, donc un taux sans risque, parce que les banques peuvent prendre comme garantie, comme collatéral, la valeur de la licence. Donc vous voyez, comme le taux d'intérêt qu'elles peuvent emprunter, c'est 5%, eh bien, ils ont intérêt, les taxis ont intérêt à emprunter pour faire jouer la dette de levier, sauf peut-être à la fin de la vie où la rentabilité est de 4%, et donc souvent on constate que lorsqu'ils sont relativement âgés, ils payent cash la valeur de la licence, et ça se comprend. Ici, voilà la rentabilité donc moyenne, la rentabilité donc annuelle, la rentabilité moyenne donc de la valeur de la licence sur la durée. Et donc, vous avez qui c'est, à une rentabilité avec effet de levier de 10%, qui se compare avec la rentabilité précédente sans effet de levier de 8%. Donc, vous avez un gain de 2% dû à l'effet de levier. Alors, est-ce que c'est une rentabilité élevée? Bien, disons que si on regarde à la fois les chiffres de rentabilité des chiffres des sociétés qui sont cotées à la Bourse de Paris, ou bien si on regarde un certain nombre de chiffres qui viennent de la stream sur la rentabilité des entreprises individuelles, on voit que c'est à peu près dans l'ordre de grandeur de 10%. Simplement, la seule différence, c'est qu'ici, c'est une activité spécialement peu risquée. Il y a très peu de risques individuels, et donc c'est ce qui fait, je dirais, l'originalité et la spécificité de ce secteur. Alors, où sont les problèmes? Premier problème, donc un problème auquel il faut développer, c'est le fait de distribuer gratuitement à des personnes inscrites sur l'utilisateur un droit d'entrée d'une valeur à part de 180 000 euros. Dans d'autres villes de province, c'est beaucoup moins élevé, mais sur la Côte d'Azur, c'est beaucoup plus élevé. Donc, je dirais, quand même, sur le plan, comment éduquer sur les commissions qui reçoivent un tel cadeau de la part des pouvoirs publics, c'est quand même, je dirais, une question qu'on peut se poser. Et puis, il y a un problème également du côté de la norme, c'est bien que dans un certain nombre de cas de figure, il existe un excès de demande qui est non satisfait. Alors, est-ce qu'on peut le mesurer? Là, c'est beaucoup plus difficile. On a très très peu de chiffres et on peut s'asseoir sur très peu de connaissances scientifiques dans le domaine. Pourquoi? Bien parce que c'est un peu une demande d'attente et si elle n'est pas satisfaite, eh bien elle disparaît. Donc, c'est relativement difficile de la mesurer. Hein, c'est un petit peu exactement comme dans le marché de l'emploi. Si vous êtes pratiquement sûr de ne pas trouver d'emploi, eh bien, vous sortez des listes de chômage, vous devenez donc non actif. Et donc, à ce moment-là, c'est relativement difficile de mesurer le déficit de l'offre par rapport à l'emploi. Donc, la solution, c'est évidemment la solution qu'elle comprend, c'est l'augmentation du nombre de licences. Donc, de desserrer un peu le numerus clausus, d'avoir plus de taxis dans les routes. Et donc, du coup, plus de demandes. En effet, là, vous avez un petit peu un paradoxe par rapport à un certain nombre de marchés, marchés où généralement l'offre et la demande sont indépendantes. Ici, la demande dépend dans une certaine mesure de l'offre.
Si on raisonne à prix fixé, puisque les prix sont fixés par l'État, bien la demande de taxi dépend du temps d'attente qui dépend direct de la tension propre à la demande. Et donc ici, le concept clé, c'est le concept d'élasticité d'attente à l'offre de taxi. Et qu'est-ce que ça veut dire ce concept d'élasticité? De combien la demande en pourcentage augmente-t-elle suite à une augmentation en pourcentage de l'offre de taxi? Si par exemple, une élasticité de 0,5, ça voudra dire que si vous augmentez l'offre de taxi de 10%, eh bien, la demande n'augmentera que de 5%. Alors, on peut montrer que dans des conditions, je dirais, normales, cette élasticité doit être normalement inférieure à 1, c'est-à-dire que l'augmentation de la demande en pourcentage doit être moins que proportionnelle à l'augmentation du nombre de taxis. Et donc, ce qui implique le chiffre d'affaires de taxi, si vous augmentez les licences, ça va augmenter. Il va augmenter, mais il va augmenter moins que proportionnellement au nombre de taxis. Le chiffre global de la proportion de taxi va augmenter, mais va augmenter moins que proportionnellement au nombre de taxis. Donc, vous allez avoir une diminution d'argent de chaque taxi, et donc de la valeur de la licence. Et donc, le dilemme, c'est comment diminuer le déficit de taxi et le prix trop élevé de la licence sans pénaliser les artisans d'activité. Alors, pourquoi sans pénaliser les artisans d'activité? Bien, d'une part, parce que certains ont payé le prix de leur licence, et donc, évidemment, je dirais qu'il y a un problème de préservation des avantages acquis. Et deuxièmement, c'est aussi un problème d'économie politique, hein, parce que tout le monde sait que les taxis sont capables, sont en capacité de faire pression sur les pouvoirs publics et sur l'opinion en général. Donc voilà le cadrage pour cette table.
Merci, Madame Tamois. Je vais passer la parole à Alain Estiva. Je vous rappelle qu'il préside la Fédération nationale des artisans de taxi. Je suis sûr, Monsieur Estiva, vous allez rebondir à ce que vient de dire Alain Tamois sur plusieurs points. Votre profession déroge au droit de la concurrence, l'activité est rentable, un cadeau que l'État a offert. Je résume.
Vu ma rondeur, comment me poser la question de la déréglementation alors qu'on voit que la déréglementation au système bancaire a créé une crise économique qui est devant nous? Je pense que là, il y a ou de la bravoure ou de la conscience. Parler de la déréglementation d'un métier de proximité ou de la microéconomie alors qu'on n'a pas été capable de régler la macroéconomie. Il y a là une certaine provocation et je réponds à la provocation. Alors ce que je voudrais dire, c'est que si on parle de la déréglementation du taxi, c'est qu'on commet trois erreurs au départ. D'abord, on a le modèle anglo-saxon. Et on dit on va faire le modèle anglo-saxon. Eh bien, il faut que vous sachiez que nos amis anglo-saxons, et je rencontre régulièrement, ne sont pas déréglementés. Et qu'il y a une erreur de traduction entre le mot déréglementation et le mot régulation, nos amis anglo-saxons régulent avec des nuances que juste nous, nous n'avons pas. Le deuxième point d'erreur d'analyse, c'est que vous parlez taxi. Et vous dites chauffeur taxi. Non, c'est des entreprises. C'est 33 500 entreprises. Et une vingtaine de très petites entreprises et une petite vingtaine de moyennes entreprises. Donc ce que vous attaquez, ce n'est pas le chauffeur taxi que vous connaissez, c'est l'entreprise. Ces entreprises ont été créées, ont été rachetées pour l'essentiel. Vous parlez de ceux qui ont touché les licences gratuites, ils ne sont pas majoritaires, ils sont même très minoritaires. Tout le monde a acheté sa licence. Bien, ce que je vois des jeunes, je tiens à leur dire cela, nous sommes un métier de réinsertion et d'intégration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 2-3 ans, vous ne pourrez pas être taxi parce que vous allez vous lancer dans d'autres métiers. Et, le Dieu vous parle, un jour ou l'autre, vous aurez un problème de rupture dans votre profession, dans votre métier, et vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi pas le taxi? Donc la quasi-totalité des chefs d'entreprise du taxi, 98, c'est soit des gens qui ont perdu leur emploi, soit les collègues qui viennent de l'immigration, essentiellement à Paris. Donc c'est très important que de considérer que l'économie, ce n'est pas que les chiffres, mais c'est les hommes derrière. Et ces hommes sont les hommes qui ont souffert, et les femmes qui ont souffert, et qui retrouvent dans le taxi une bouée de sauvetage pour finir leur carrière. Une troisième méconnaissance, c'est que le taxi, vous croyez que c'est le taxi qui attend dans la rue. Alors, quand on parle d'économie, il faut savoir que l'économie du taxi, c'est 3 milliards d'euros. Mais c'est pas grand-chose par rapport à ce que perdent les raideurs dans la bourse en quelques minutes. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 52 000 emplois. À titre d'exemple, les pépinières et les fleuristes, les jardineries, font 6 fois plus de chiffre d'affaires avec moitié de moins de salariés. Et autre chose que vous ne connaissez pas, c'est que sur ces 3 milliards d'euros, il y en a 1 milliard 800 millions qui nous sont payés par l'État. Pourquoi ? Parce que les taxis font du transport public, ils font ce qu'on appelle les fins de ligne, ils font du transport de personnes protégées, je pense aux enfants de la DAS, ils font du transport scolaire, et sur ces 1 milliard 800 millions, il y en a 1 milliard payé par la sécurité sociale, puisque nous sommes les seuls habilités à faire du transport de personnes malades assises. Et puis la troisième, là aussi je vais être très provocant, c'est que dans notre pays, quand je rencontre nos amis anglo-saxons, je n'ai pas la même sensation, on a la hiérarchie des métiers. Quand on est aux États-Unis, vous parliez de la valeur des licences, les amis new-yorkais viennent de voir une progression dans la valeur licence à 600 000 $, à Chicago à 700 000 $, je ne pose pas ce genre de questions. Ça va de bon sens quand on a acheté ou quand on a eu un prix, on peut la vendre sous certaines conditions, bien entendu. C'est qu'en France, on a une hiérarchie des salaires, on a une hiérarchie des métiers. Il y a deux métiers, il y en a même trois, qui ont des nuances que juste. Nous, nous n'en avons pas de nuances que juste, contrairement à ce qui est dit. Les pharmaciens, les notaires, les médecins. Est-ce qu'on pose le problème des nuances que juste des pharmaciens ? Oui. Un tout petit peu. Sauf que les pharmaciens ont des liens avec le pouvoir public, le pouvoir politique, et qu'on est tous à faire. Alors nous, je voudrais vous dire qu'en 10 ans, nous avons créé plus d'emplois qu'Airbus en a perdu. Nous sommes passés de 42 000 à 52 000 licences, donc 10 000 salariés en plus. Donc vous voyez que l'Union Européenne n'existe pas. Quand on parle de réglementation, je le dis souvent à mes collègues, parce que vous l'avez dit, nous sommes très syndiqués, et pour cause, nous avons raison d'être syndiqués, je vous le dis aux jeunes, on a raison de se défendre, parce qu'on est souvent attaqué d'une manière injuste et immorale. Je leur dis, la réglementation n'est pas faite pour vous. La réglementation, elle est faite pour nos clients, pour protéger nos clients. Et vous l'avez bien expliqué, un client qui arrive à Lyon, il est à la gare, il ne peut pas choisir son taxi, puisqu'il veut tout de suite son taxi. Et donc, il est en situation difficile, pas difficile, mais inquiétante. Monter dans une voiture avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est inquiétant. Et donc, il faut réglementer le règlement de la profession pour lui donner une déontologie. Donc, la réglementation n'est pas faite pour nous se faire plaisir, elle est faite essentiellement pour que nos clients soient protégés. Alors, j'aurais préféré venir à une réunion sur la régulation de notre métier. C'est-à-dire comment nous pouvons être là au moment où il faut, là où les clients ont besoin. Et alors à ce moment-là, on ne se pose pas ce genre de questions économiques, on se pose ce genre de questions concrètes, sur le terrain. Comment un taxi peut être au plus près de son client ? Eh bien, il y a trois éléments fondamentaux. Premièrement, c'est la circulation. Alors peut-être qu'à Lyon, c'est plus facile qu'à Paris, je ne le sais pas. En tout cas, à Paris, le problème de la circulation est très grave, et tellement grave que finalement, 20 ans après les Américains, nous allons mettre une voie spécifique entre Roissy et Paris pour améliorer la capacité des taxis à rouler. La deuxième, c'est l'attractivité de notre métier. disais tout à l'heure qu'il y a une hiérarchie des métiers. Dans ce pays, quand on a des métiers où on travaille la nuit, le jour, vous avez quelqu'un devant vous qui a fait 20 000 Noël. Pendant 20 ans, je rentrais à la nuit de Noël à 3h du matin. Les métiers qui se font comme ça en décalage, je pense à tous ceux qui travaillent dans les brasseries, dans la restauration, aux infirmières. 1% des taxis à Paris sont mariés avec des infirmières et des personnels hospitaliers. Nous sommes des sous-métiers. Nous ne devons pas gagner notre vie. La valeur de la licence, c'est un scandale. C'est cette hiérarchie des salaires, des métiers, qui fait qu'on attaque régulièrement notre profession. Et bien pourtant, il faut l'attractivité. Il faut que nos collègues, les gens qui ont une rupture dans leur vie, se disent « et pourquoi pas taxi ?» Eh bien, la valeur de la licence est une attractivité. On le rentre dans ce métier aussi, parce qu'à la fin de sa carrière, on aura une licence qui aura une certaine valeur. Et on l'a bien vu, parce que le rapport à Tali, qui était incomplet, excusez-moi, qui était insuffisant, et qui partait d'idées de macroéconomie alors qu'on était sur la microéconomie, eh bien, il a eu deux effets immédiats sur la révolte des taxis, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, on se révolte tout régulièrement. À chaque fois qu'on se révolte, il faut que vous sachiez que quelques mois plus tard, il y a une crise économique, eh bien, on vient d'avoir le même système. Deux éléments. Premièrement, baisse immédiate de la valeur de la licence. Elle n'est plus à 180 000, elle est aujourd'hui à 150 à Paris. Elle est à 153, elle remonte régulièrement maintenant. Mais deuxième problème, c'est qu'on nous a mis 500 taxis de plus, on n'avait pas de chauffeur à mettre en face, puisque personne ne voulait plus rentrer dans ce métier. Donc, quand on parle d'économie, il ne faut pas parler que de chiffres, il faut parler aussi de réaction, de réflexe humain. Et là, je dois dire qu'on doit parler de régulation. Et la difficulté de notre profession, c'est justement ça. C'est pour cette raison qu'en 2002, avec le préfet de police, nous avons mis en place une régulation par des index. C'est-à-dire qu'on crée des licences en fonction d'un index économique qui vérifie si on a trop de travail ou pas. Et avec le protocole d'accord du gouvernement, après la suite au rapport Chassigneux, nous allons l'étendre à toute la France. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de déréglementation, il vaut mieux parler de régulation. Quand on parle de déréglementation, il faut quand même faire attention à ce que la déréglementation fait subir, et va vous faire subir au cours de l'année 2009, puisque en tant que président d'appellation, je suis aussi vice-président du PA, et je participe avec le MEDEF et la CGPME à des négociations. Il faut s'attendre en 2009 à ce que vous appelez la crise de l'économie réelle, qui est en réalité la seule économie qui compte, puisque c'est la seule qui fait vivre les gens. Voilà, j'en ai terminé là-dessus. Je reviendrai si vous voulez me poser des questions. Mais je voulais affirmer que la réglementation n'est pas faite pour avoir une protection de gens super protégés. Elle est faite essentiellement pour que les clients soient protégés.
Merci Alain Estival. Vous avez parlé de provocation, hein. De déréglementation aujourd'hui de la profession de taxi. Vous avez dit que le rapport Attali était insuffisant, hein, c'est ça? C'était un contenu de terre, on l'a dit tout à l'heure avec Jacques Delplat. Vous avez évoqué également le rapport Chassigneux, on a son auteur avec nous, donc le préfet Pierre Chassigneux, aujourd'hui président de la SAMER. Vous avez donné suite au rapport Attali une mission sur cette profession de taxi. On vous écoute.
Merci. Oui, en effet, donc, revenir un petit peu sur mon rapport. Je voudrais dire d'abord qu'en effet, il n'y a pas de numerus clausus. Hein, c'est très clair, ça fait partie des professions qui, la décision d'octroyer une licence de taxi dépend du maire. Si à Paris, on dit que c'est le préfet de police, et c'est le préfet de police en tant qu'exerçant les responsabilités de police municipale du maire de Paris. Donc rien n'interdit demain au regard de Lyon, de Paris ou d'ailleurs, le nombre de licences de taxi de le faire. Sauf qu'évidemment, il y a d'autres conditions. Il n'y a pas de numéro de clause. Personne n'a écrit nulle part dans aucun texte que le nombre de taxis soit fixé. accès à la médecine et à la femme d'une manière ou d'une autre. Deuxième point, je reprends ce qu'a évoqué M. Siliva, la profession de taxi est loin d'être homogène. Vous avez de grandes différences entre un taxi rural qui fait à peu près 95% de son chiffre d'affaires avec des collectivités publiques, qu'il s'agisse des collectivités organisées de transport, il faut du transport scolaire, travail pour les médecins, l'assurance maladie en zone de transport dans la taxi, et puis vous comparez ça à un chauffeur de taxi d'une grande compagnie parisienne qui travaille par téléphone et qui est à peu près à 60-70% sur abonnement avec de grandes entreprises. Ce n'est pas du tout le même métier. Entre les deux, vous avez des taxis de ville moyenne qui font un petit peu de zone et d'autres. Donc c'est des métiers relativement différents et à prendre de manière aussi très différente. Alors, je vais aller très vite sur ce que j'ai proposé et qui a été très largement retenu par un protocole signé entre le ministre de l'Intérieur et l'ensemble des organisations professionnelles de taxi, qui d'une part déjà de sur l'idée évoquer aussi que le métier de chauffeur de taxi est un métier d'insertion. Il faut savoir qu'historiquement, on voit arriver toutes les suites, j'allais dire, de vague d'immigration en France, donc on peut lancer les chauffeurs de taxi russes, etc. Toutes les grandes vagues d'immigration ont fourni comme métier d'insertion des chauffeurs de taxi. C'est d'ailleurs quelque chose qui est, je crois, mondial. Dans tous les pays, c'est la même chose, et c'est très bien. Et donc l'idée était de proposer une formation professionnelle un peu différente de celle qui existe, plus axé sur la qualité de service, il faut qu'elle soit à la fois qualifiante, mais qu'elle ne soit pas discriminante puisqu'elle s'adresse à des populations au départ fragiles, et puis aussi donc axé sur la qualité de service, et puis faire en sorte, puisque tout évolue, qu'il y ait une formation continue, donc ça a été retenu, que tous les 5 ans, il y ait une formation nouvelle des chauffeurs de taxi, c'est important, puisque le chauffeur de taxi est pour un peu le Parisien qui parle, mais c'est aussi vrai pour Lyon, c'est souvent la première personne que rencontre un étranger, un touriste, qui arrive sur une vocation d'accueil importante et qui ne doit pas être écartée dans sa formation. Alors ensuite, eh bien, avoir un certain nombre de mesures, j'allais dire de détails, mais dont l'addition doit permettre de changer un petit peu la perception du taxi, qui vont tout dans l'ensemble de la qualité de service. D'abord, à savoir si le taxi est libre ou pas, c'est important, vous avez au-dessus du taxi un lumineux, mais on ne sait pas très bien le jour s'il est libre ou pas, donc dans d'autres pays, on voit effectivement avec un feu rouge ou un feu vert s'il est occupé ou libre. Vous avez des taxis aujourd'hui, il y a plein de pays où ils ont des couleurs, c'est des modèles, en France, on a des taxis qui sont de tout ça. Alors, on ne va pas imposer, je parle de taxi, un seul modèle et une seule couleur, ils ne sont pas d'accord. Par contre, un certain nombre mettent des publicités sur leur véhicule qui s'enlève, parce que le chauffeur de taxi ne peut pas avoir un seul modèle dans le véhicule d'une seule couleur, parce qu'il le rend. Et donc il dit qu'il va perdre l'argent à la vente, de même il l'utilise pour ses vacances, et il ne veut pas que cette voiture soit vue comme un taxi lorsqu'il prend. Ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc maintenant, on peut mettre tout à fait des autocollants sur les taxis. Donc il y a une chaîne. Savoir une charte graphique avec une seule couleur, qui enlève le truc, comme on enlève les pubs, et au moins dans la rue, vous verrez ce qui intéresse bien le taxi et pas la voiture en place, et pas se mettre en place. Et puis, toujours dans cette optique de qualité de service, eh bien, l'idée c'est d'avoir un vrai taximètre qui délivre les factures. Vous allez acheter un café pour connaître un petit peu les composantes du pays, notamment la complexité des différents tarifs de taxi. Bref, tout cela se met en place progressivement, ça prend du temps, ça coûte un peu d'argent, mais tout ça a été acté. Alors, le vrai problème du débat aujourd'hui, c'est un peu l'adaptation de notre indépendance et savoir comment faire avec le nombre de licences. Donc, Festival a évoqué la généralisation de l'index économique comme référence au nombre de taxis. Le problème de l'index économique, c'est évidemment de savoir si le moins zéro, est, si au moins zéro, il y a satisfaction d'un mode. Ça, c'est un point qui n'est pas complètement tranché. Alors, sur l'élasticité d'un mode par rapport à. On peut dire quand même que ceux qui sont connus, c'est-à-dire à Paris, les taxis abonnés à des centres radio, qui ont donc des GPS, donc qui sont situés en permanence, et donc on sait en permanence ce qu'ils font, c'est-à-dire où ils attendent des clients, où ils ont un client, où ils travaillent pas. Eh bien, on considère qu'à Paris, en semaine, vous avez le maximum de taxis, c'est 55% des taxis aux heures creuses. En heure de pointe, là où il n'y en a plus besoin, il y en a entre 35 et 45%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y en a plus, normalement, il va y avoir plus de demandes. Or, bien, c'est pas vrai. Alors, on peut évidemment déconnecter ça en disant que quand il y en a moins, c'est parce qu'on circule de loin et que le chauffeur de taxi n'a pas envie de coincer pendant des heures dans les embouteillages et qu'il préfère travailler autrement. Alors, dans les propositions, trop long, je peux parler des heures et tout ça. Dans les propositions, il y avait quelque chose qui m'est paru être l'offre de Christophe Colomb, mais que monsieur et ses collègues ont rejeté, et qui est ce qui s'appelle le doublage. Donc vous voyez, avec ces chiffres, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce qui coûte cher, c'est la licence, c'est pas la voiture. On est d'accord? Le chauffeur de taxi, il utilise sa voiture comme un outil de travail et comme sa voiture personnelle. Aujourd'hui, il a payé très cher une licence, on va dire, on va prendre les 180 000, une voiture aujourd'hui, il la paye 20 000. Est-ce que c'est rationnel pour utiliser personnellement quelque chose qui coûte 20 000, ne pas exploiter complètement quelque chose qui coûte 180 000? Évidemment. Donc l'idée était de dire, eh bien, permettons aux artisans, ça se passe un petit peu différemment pour les entreprises, ce qu'on appelle le doublage, c'est-à-dire d'avoir deux chauffeurs sur la même véhicule. Alors, pas deux chauffeurs en même temps, bien entendu, mais deux chauffeurs qui puissent se succéder. Ça demande évidemment des surveillances sur l'état de qualité de la voiture, etc. De temps de travail, ça suppose aussi d'avoir un ordinateur, tout ça, un ordinateur électronique, des critères d'identification. Et donc, ça permettrait, quand un plombier commence, un artisan plombier va débuter, il va redémarrer tout seul. Il voit qu'il a du boulot, ben il va prendre un conseil. Supposons que l'artisan taxi il démarre, alors au début il a besoin de gagner beaucoup d'argent, ce qui est compliqué qu'il paye ensuite. Bon, il a besoin de continuer à travailler, mais un peu moins. Il veut rentabiliser de son affaire, il prend quelqu'un qui travaille avec. Et donc, soit comme locataire, soit comme salarié. On augmente, ça augmente la valeur, le revenu du chauffeur taxi, ça crée un emploi, et ensuite ça répond. Allemand. Cette proposition a l'avantage, de laisser ça individuellement à ceux qui connaissent. Hein. Et ensuite, s'il y a un retournement de tendance, on va se retrouver avec beaucoup de licences. Bon, ben, à ce moment-là, soit ils ne rechercheront pas, soit éventuellement ils licencieront. Mais c'est, tout ça se passe en souplesse avec une adaptation permanente. C'était l'idée que je voulais faire expérimenter à Paris. Je sais qu'elle s'est heurtée à l'hostilité, ça me paraît quelque chose de simple et qui a le mérite d'envoyer la balle de ce problème économique que l'on voit. Est-ce qu'il faut les réglementer, est-ce qu'il faut utiliser des licences, est-ce qu'il faut donner des licences gratuites, est-ce qu'il faut donner une licence gratuite à chaque chauffeur, etc. Là, on laisse ça ouvert avec évidemment une expérimentation liée à une qualité de service, mais je pense que ça pourrait être un moyen relativement simple d'adapter l'offre de taxi à la demande. Voilà ce que je voulais vous dire.